et il y a toute une programmation autour de moi qui a bénéficié du financement public et avec lequel je suis en compétition. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de conte, ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de conte. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez, il était une fois dans l'Est. Dans ce 25e épisode, je vais vous parler d'entrepreneuriat artistique. On l'oublie souvent, mais dans le fond, moi je suis un conteur d'histoire, oui. J'ai l'air de me promener avec un baluchon puis d'avoir la tête des nuages, mais au fond, si on veut, comme génétique, biologiquement, qu'est-ce que je suis? En fait, je suis un entrepreneur artistique et c'est comme une espèce d'inévitable. Et c'est le cas pour pas mal tout le monde qui vit de l'art. Et c'est comme une grande contradiction parce que souvent, c'est des valeurs très différentes. Tu sais, la créativité versus être cartésien, être ordonné, être organisé, avoir une aptitude à jouer avec les chiffres. Ben, si tu veux vivre des arts, il va falloir que tu sois un peu ambidextre de ces valeurs-là qui peuvent sembler opposées. Mais finalement, mieux tu sauras jouer sur les deux tableaux, puis plus tu auras une carrière qui sera pérenne peut-être. Il y a une image... Moi, qui m'avait marqué, c'est que, un cerf-volant pour voler haut a besoin que quelque chose le tienne au sol. Lâche la corde, puis il tombe. C'est paradoxal, mais ça te prend une partie qui est vraiment groundée, qui est ancrée, qui est cartésienne, qui est solide, qui s'assure qu'il y a de l'argent dans un compte pour payer les frais, tu sais. Et de l'autre côté, ça prend une tête qui est créative, qui est pleine d'idées, qui développe. C'est un peu l'image qui représente peut-être le mieux ce que c'est que d'être entrepreneur, finalement. Mais justement, parlant d'image d'entrepreneur, je m'ai dit, je ne vais pas vous donner un cours en entrepreneuriat ici, là, mais j'avais envie de vous partager un peu mon expérience à travers de ça, qui est peut-être une expérience très champ gauche, là, toujours est-il que, moi, je suis conteur professionnel, mais déjà, le terme professionnel est à remettre en question parce que je ne pense pas qu'il concerne le niveau de ce que je présente quand je dis que je suis conteur professionnel. Il représente plutôt peut-être un espèce de standard de professionnalisme. Et ça, c'est vraiment une grosse notion. Tu sais, le métier de compteur, c'est quelque chose que... En fait, le geste de compter, c'est quelque chose que j'ai la conviction que beaucoup de gens pourraient poser comme geste. Maintenant, d'en vivre, c'est autre chose. Un peu comme ramasser des feuilles mortes. Tout le monde est capable de ramasser des feuilles mortes à peu de choses près. Maintenant, de vivre de ce métier-là, de ramasser des feuilles mortes, attache ta tuque. Quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires pour ramasser, puis il y en a plein, là, c'est sûr, qui le font. Mais tu sais, finalement, il y a à être plus ponctuel que Tikkun qui fait ça. Il y a peut-être à être efficace, il y a peut-être à être meilleur, mais même pas. Mais entre autres, celui qui vit de ça a eu à développer un marché. Il y a eu à faire du porte-à-porte puis te faire à croire que tu avais besoin de ramasser des feuilles mortes ou du moins te faire à croire que tu avais besoin de lui pour ramasser tes feuilles mortes, tu sais. Et ça, c'est quand même un gros travail. T'sais, moi, pour être conteur professionnel, il faut entre autres que je sois disponible, que quand le téléphone va sonner, je vais répondre, voire même peut-être qu'il va falloir que j'aie mis de la pub pour que le téléphone sonne. T'sais, c'est une démarche qui remonte à loin. Et mec qui sonne, je réponds et il va falloir que je sois disponible pour les plages horaires que ce client-là souhaite avoir. Et ça, c'est énorme. Ça, il y a un coût à ça. Ça, il faut que je sois disponible comme toute l'année pour pogner des petits contrats qui finalement ne me payent pas pour toute l'année. T'sais. Mais il y a cette dynamique-là, il y a comme cette disposition-là que tu dois offrir, puis ça demande un espèce d'engagement complet. Fait que finalement, le ramasseur de feuilles, ça devient de moins en moins simple. Il faut que... lui, c'est juste l'automne, fait que c'était déjà un exemple de marde que je prenais, mais quoique, saisonnier, c'est assez représentatif finalement. Tu vas te dire... Voyons donc, il me charge 400$ pour ramasser mes feuilles mortes. Ça y a pris un après-midi, et puis badabim, badaboum, il a débarqué avec son râteau puis son pick-up, puis il est venu ramasser ça, puis il repart même pas avec les sacs de feuilles mortes, tu sais. Puis je suis d'accord avec toi que ça peut sembler dispendieux, 400$ pour ramasser tes feuilles mortes, mais ce gars-là, va falloir qu'il te fasse une facture tantôt. Puis ça vient de lui coûter autre chose qu'un râteau. Tout d'un coup, te faire une facture, ça lui demande peut-être une ressource humaine qui fait que de ça. qui va peut-être y charger un prix exorbitant pour ce bout-là, ou il va le faire lui-même, ça y prend un ordinateur, ça y prend un bureau chez eux, puis ça vient de complexifier la patente. Fait que tout d'un coup, d'être pro, ça demande un engagement qui est vraiment plus grand. Et elle est là peut-être l'espèce de, pas garantie, mais l'espèce de promesse derrière le terme professionnel. C'est pas tant au niveau de la qualité que du sérieux de la démarche. Fait que finalement, bon, moi je suis un compteur professionnel, donc je suis un compteur sérieux. Je te jure qu'il y a des bonnes chances que je sois là, si je t'ai dit que j'allais être là, puis je vois pas te chier dans la mythe, tu sais. Je sais pas trop, au Québec, c'est quoi le pourcentage de gens qui sont salariés versus qui sont auto-entrepreneurs, travailleurs autonomes. C'est, on dirait que c'est deux modes de vie complètement différents. L'image la plus parlante que je pourrais vous nommer, ce serait comme de vous dire que d'être salarié, ce serait comme être herbivore au niveau de l'apport de nutrition qu'il faut que ce soit. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu t'attaches à cette tâche-là pendant 8 heures par jour. C'est une espèce de marathon qui est éreintant à longue, qui est un grand engagement qui va te mobiliser énormément, mais tu n'auras pas à créer un marché. Ça, c'est ton employeur qui s'en occupe de s'assurer que tu aies de l'ouvrage toujours, règle générale. Tandis que d'être travailleur autonome, tout d'un coup, c'est comme si tu étais un lion embusqué qui attendait qu'un éléphant passe. T'as besoin d'un gros contrat, t'as besoin que ça soit plus gros qu'une bouchée d'herbe. Parce que ça implique que tu vas avoir passé des heures à pas bouger puis à attendre. Et ça va te prendre le pick-up, ça va te prendre le râteau, ça va te prendre des griffes puis des dents capables d'attraper cet éléphant-là. Et mec qui passe l'éléphant, eh bien, il va falloir que tu mettes ta famille de côté, il va falloir que tu mettes ta game de côté, ta game de hockey du lundi soir de côté aussi, parce que tu pourras pas arrêter de courir. Moi, s'il y a un festival de contes qui m'invite, on m'invite à aller compter aux îles de la Madeleine, par exemple. Bon, c'est un contrat d'une semaine où je vais aller compter 5 fois. Eh bien, pendant une semaine, je suis pas chez nous. Je suis pas à la maison à pouvoir gérer toute cette affaire-là. Ça se peut qu'il faille que je demande à quelqu'un de venir s'occuper du chat. Voire pire, si tu as des enfants, il va falloir que tu demandes à ton conjoint-conjointe de prendre sur lui cette semaine. Il vous manque un parent parce que papa est parti ramasser un éléphant. Et c'est à se questionner s'il faut que cette semaine de travail-là rapporte juste une semaine de salaire. Si finalement, elle vient mobiliser complètement l'autre parent, par exemple... Moi, pendant que je suis aux îles de la Madeleine, il y a quand même des paiements hypothécaires à la limite à faire. J'ai pas d'hypothèque, là, mais j'imagine qu'il y a plein de monde qui en ont un. Alors, j'avais justement une discussion intéressante avec un programmateur à ce sujet-là qui s'ostinait avec son CA pour doubler les cachets d'artistes parce que 1 000 $ pour ta semaine, tout d'un coup, ça devenait plus assez. 1 000 $ par semaine pour aller compter, ouais, il va juste compter 4 fois, c'est quand même intéressant. Ben, pas tant que ça, parce que finalement, ce qu'on y prend, c'est une semaine, puis ça, il y en a 52 dans l'année, fait qu'il fait 52 000 $. Faux. Parce que sa semaine, il a pris 2 semaines. Sa semaine, il a pris des jours de préparation, puis ça prend des jours de retour pour se remettre de ça, pour défaire tes bagages, pour remettre en route l'espèce de roue où tu vas solliciter d'autres clients potentiels. Fait que finalement, tu n'es plus en train de faire 52 000 par année, tu es en train d'en faire 26 000 parce que tu as accepté de chasser un trop petit éléphant. Et c'est vraiment sournois, ça, surtout au début, quand on commence en entrepreneuriat, il y a l'espèce de peur de manquer de contrat qui fait que des fois, on attrape des trop petits contrats. Moi, il faut que je sois embusqué pour attraper un éléphant. Si mec qui passe une souris à côté de moi, je sors de ma cachette pour attraper cette souris-là puis me faire un petit snack en me disant « Bah, on va pas cracher là-dessus », eh bien, je viens peut-être de scraper 6 heures de silence pendant lesquelles s'approchait un éléphant. Et en mangeant ma souris, je fais décoller un éléphant. Si j'ai un contrat par semaine en tant que compteur, et que j'ai mon beau-frère qui me dit « Hey Pat, pourrais-tu venir le 26 novembre pour mon déménagement? Je te donnerai 100 $. T'es disponible, ça va te dépanner. » Puis tu dis « Ben oui, t'as 100 $, c'est mieux que rien. De toute manière, j'ai pas de contrat cette journée-là. » Mais watch out si demain, j'ai un festival qui m'appelle pour me dire « Hey, on t'aurait pris pour une semaine. T'es-tu disponible la semaine du 24 au 28 novembre? » Tu fais « Ah, fuck le beau-frère! Ce contrat de 100 $-là vient de me coûter 1 000 $ ou 2 000 $ s'ils ont ajusté le paiement. » Alors, c'est toute une dynamique, c'est une espèce de gymnastique qui est à apprendre Et on n'est pas nécessairement dans des milieux où est-ce qu'on est outillé pour apprendre ça. Quelqu'un qui est issu du milieu entrepreneurial, que sa famille est entrepreneur, va avoir ces discussions-là où on va te dire « Ben non, tu ne charges pas assez cher. Ben non, il faut que tu charges 40, 50, 60 piastres de l'heure. Tu n'as pas le choix, tu sais, parce que toi, tu n'en auras pas de retraite. Alors, il faut que tu ramasses le dos, puis ci, puis ça, puis tu n'as pas d'assurance, toi. Puis tu vas avoir toute cette discussion-là. Mais c'est sûr que c'est tentant au début de faire « Ben, moi, te charger 20 piastres de l'heure parce que ben, c'est mieux que le salaire minimum. Puis moi, dans le fond, ça me permet de manger. » Mais visiblement, ça ne sera pas assez à la longue. Et bon, moi, par exemple, bon, j'ai un modèle d'affaires qui est quand même un peu différent où est-ce que j'ai pas 52 semaines de travail par année, mais j'ai plutôt pris ces 52 contrats-là potentiels à un par semaine parce que c'est de l'ouvrage, trouver un contrat par semaine. Eh bien, moi, au lieu de ça, ben, mes 52 contrats, j'ai fait en un été avec mon spectacle estival. Ça donne quand même une image qui est faussée au spectateur qui, lui, serait par exemple salarié. Je l'entends, ce commentaire-là, tu sais, d'avoir, mettons, une foule de 100 personnes ce soir et un spectateur qui est calé dans sa petite chaise de camping puis qui fait comme « Ouais, c'est payant à compter. 100 personnes fois 10 piastres, 1000 piastres pour une heure. Bien joué l'artiste. » Puis effectivement, bien joué l'artiste parce que je vous jure que c'était du travail me rendre à 100 spectateurs. C'est pas le fruit de cette année je me suis mis à compter. Non, c'est le fruit de « ça fait 12 ans que je fais ça ». Il y a une anecdote comme ça de Picasso qui est dans un bar, puis il se commande une bière, puis bon, en buvant sa bière, il fait un dessin sur une napkin. Puis au moment d'y charger sa bière, le barman fait comme « Hey, si tu veux, je te la fais gratis, si tu me donnes ton dessin. » Puis Picasso fait comme « No way, ce dessin-là vaut genre 25 000 $ Puis le barman fait « Ben non, t'as fait ça en 5 minutes, là, en way. » Ben Picasso, il fait « Non, j'ai pas fait ça en 5 minutes, j'ai fait ça en 40 ans. Il m'a fallu 40 ans pour qu'en 5 minutes, je fasse un dessin d'une si grande qualité. » Alors c'est faux de juste évaluer l'espèce de 5 minutes que je viens de prendre pour te faire ta napkin, tu sais. Alors, timbre là tes 8 piastres pour ta bière, puis laisse-moi mon dessin à 25 000 piastres. Bon, au moins le brûler, si c'est pas le vendre à 25 000 piastres. Bon, je suis pas Picasso, mais mon spectacle estival a de l'air de me prendre une heure et quart. Et c'est pas faux. Mon seul engagement solide duquel je peux pas me détacher, c'est ça. Mais derrière cette heure-là, pour que je sois parvenu à faire s'asseoir 100 personnes autour de ça, eh bien, il y a des années de promotion, il y a des années de autant des petites publicités que j'ai payées que des contrats que j'ai accepté de faire dans des écoles pour que des jeunes disent à leurs parents qu'il y a un compteur à Carleton. Il y a toutes ces petites actions-là qui font que en bout de ligne, à un moment donné, il y aura du monde qui vont s'asseoir dans ma salle de spectacle finalement. Et même les sièges eux-mêmes, les mettre en place, ça va me demander du travail. Les histoires que je vous raconte, le 3 mois que je viens de passer en France pour aller chercher des histoires, quand est-ce que je le paye? Et c'est là où apparaissent les espèces d'heures fantômes. C'est un peu ça mon modèle d'affaires, veux pas. C'est un modèle où est-ce qu'il y aura des heures fantômes puis un moment de récolte. C'est-à-dire que des heures qui ne seront pas payantes, qui ont l'air de rien valoir, qui ne sont pas monnayables. Le temps que je passe en ce moment à faire ce podcast-là, je ne suis pas payé, tu sais, mais il va me rapporter des spectateurs à la fin, puis au moment de le charger le 10$, ça va être mon moment de récolte. Mais c'est sûr que le bonhomme qui a fait son calcul de dire 100 personnes, 10$, 1000$, ben en fait, il est en train de juger mon moment de récolte de la même manière qu'un maraîcher qui, lors de son marché hebdomadaire, fait une pause de cash. Mais en fait, ce n'est pas une pause de cash. Il est en train de juste payer les heures fantômes où il a jardiné toute la semaine pour remplir son étalage. T'sais. Et ça, c'est un peu la même dynamique dans laquelle sont beaucoup d'artistes. Et ça peut être confrontant des fois. Moi, bon, si j'ai une municipalité qui m'appelle pour que j'aille compter pour le Saint-Jean-Baptiste, eh bien, c'est peut-être le 4e appel que j'ai du genre et je ne sais pas s'ils vont me prendre après que j'aille fait une soumission, après que j'aille pris une heure pour jaser avec sur un peu ce que j'offre et puis si c'est quoi le budget. Et lui, pendant ce temps-là, il n'est pas conscient, mais il est payé, lui, pour me parler. Moi, je fais tout ça bénévole en ce moment. Et ça, c'est souvent confrontant. Quand il y a des tables de concertation dans lesquelles tu es invité, oh, c'est important que les artistes aussi donnent leur opinion et que tu te dis « Misère, il y a à peu près 12 fonctionnaires ici qui sont payés, je ne sais pas, 60$ de l'heure toute la gang, puis moi, la personne consultée, je m'en viens faire du bénévolat. » Mais c'est le deal. On est des entrepreneurs qui avons choisi d'investir, de faire une dépense en espérant que ça apporte un certain revenu à un moment donné. Et puis, tu as fait le calcul, puis tu t'es dit que ça en valait la chandelle. Et c'est cette espèce de balance-là toujours que tu fais. Puis, c'est difficile de calculer combien il faut que tu charges au final pour couvrir tes heures fantômes. Tu sais, il y aurait plein de modèles possibles. Moi, combien faut que je charge pour un contrat que je fais dans un festival? Faites l'exercice de vous dire combien faut que je charge pour compter une heure. Si des festivals, il y en a une dizaine par année, c'est pas dit que je suis invité à... Tu sais, il y en a combien? Et moi, je calcule vraiment que je suis capable de faire un contrat par semaine si je travaille à temps plein là-dessus à faire des démarches au lieu de travailler à temps plein à l'année sur préparer mon spectacle estival, par exemple. Si je faisais juste des contrats, je pense que je serais capable d'aller en chercher un par semaine. Puis ça veut dire que si je veux gagner, je vous ai fait le calcul, là, si je veux gagner un 30 000 par année, eh bien, il va falloir que je charge 575$. Peu importe que ça prenne 10 minutes ou une heure, il va falloir que ça me rapporte ça. Sinon, on m'a crevé à gueule ouverte. Sinon, je vais être mieux de retourner manger de l'herbe, d'aller passer en mob quelque part. T'sais. Alors, il va falloir que je charge ce prix-là. Est-ce que c'est ça que ça vaut, ce que vous allez recevoir? J'ai des doutes, mais c'est ça que ça me coûte. Alors, il y a tout le temps un peu cette dynamique-là. T'sais, moi, à la longue, je suis venu qu'à apprendre c'était quoi mon coût de production pour faire mon spectacle, en fait, et je le vois juste à la fin de l'année quand je fais mes impôts, je me rends compte que sur l'ensemble de mes revenus, j'ai à peu près un 25% de dépenses. C'est-à-dire que pour faire tel contrat, il a fallu que j'aille faire 8 heures de char, que je mange au resto deux fois, que je paye une nuit d'hôtel pour aller faire ce petit contrat-là à Montréal. Et ça fait que, maudit, je me rends compte trop tard que j'avais pas chargé assez cher parce que c'est ça que ça me coûtait aller produire ce service-là. Ouais, mais c'est nice dormir à l'hôtel. Oui, j'espère que t'aimes pas ton travail, sinon je te demanderais de le faire bénévole. Alors, ça, c'est quand même long à apprendre. Et c'est ce que le monde voit pas nécessairement dans mon 10$ que je charge sur la plage. Déjà là, bon, 10$, ben, je suis largement en bas du marché. Là. Normalement, un billet pour un spectacle d'une heure des arts vivants, ça serait un 30-35$. Quand c'est pour enfants, ça serait un 15 ou un 20$. Alors, inquiétez-vous pas que ça me rend fou quand un parent me demande si c'est 10$ même pour les enfants. Mais toujours est-il que sur le 10$, moi, j'ai un 1,50$ qui décolle de taxes qu'il va falloir que je verse à l'État, ça c'est une chose. Et puis après, moi, bon, j'ai mon 25% de frais pour vous avoir produit ça en payant des adhésions, en payant de la publicité à gauche puis à droite. Fait qu'on vient de descendre de 2,50$, fait que je suis rendu à quoi? À 6$. Fait que si cet été, j'ai 3000 spectateurs, ça fait un beau 30 000$ sur le coup, mais que, ben 3000 fois 6$, ça donne 18 000$. Ah ouais, c'est moins payant tout d'un coup d'être compteur. Et là, les impôts embarquent là-dessus. Il n'en reste plus une tonne. Mais finalement, je suis à peu près à 16 000 $ pour générer 30 000 $ de revenus. Ceci dit, ce 18 000 $ de revenus brut, entre guillemets, brut en fait avant impôts comme n'importe quel salarié, parce que ce n'est pas ça notre vrai brut quand on est travailleur autonome, eh bien, il me donne une liberté de fou. Et moi, c'était ça le calcul que je faisais en partant tout ça. J'étais content de pouvoir, dans mon année, partir 4 mois sur un autre projet, de partir 4 mois en voyage, en voile, puis je donnerai un coup quand je reviendrai pour m'assurer que ma promo est prête, que j'ai fait faire mon affiche, qu'elle est imprimée, que je m'envoie la porter pour la mettre dans tous les petits stands touristiques. Je ferai tout ça à un autre moment, puis coudon, pendant 4 mois, j'aurais pas été prêt pour faire des entrevues télé, des entrevues radio qui me ramèneront du monde l'été prochain. Je suis prêt à scraper un peu mon entreprise pour bénéficier de cette liberté-là, et je l'échangerais, mais pour rien au monde. Ça m'est arrivé une fois en 12 ans de prendre un emploi de salarié. En plus de mon été, j'avais travaillé dans un organisme communautaire. J'ai cherché le trouble, tu vas me dire, pour ne pas faire d'argent. Oui, mais je me souviens d'avoir été ému face au chèque de paye en me disant « Quoi? Je te donne toute mon année, puis tu me donnes juste ça. » Je capotais. Et c'est le sacrifice que les gens font à chaque jour. Fait qu'il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou qui est moins bon. Et ceci étant dit, je suis un travailleur culturel. Et puis dans le culturel, contrairement à bien des industries, bien, il y a du financement public. Et ça, ça vient changer la game complètement. On est subventionné, il y a moyen d'avoir des bourses pour faire de la recherche, il y a moyen d'avoir... Tu sais, je pourrais avoir une bourse pour réfléchir à une histoire, puis avoir une autre bourse pour écrire mon histoire, puis répéter mon histoire, puis je pourrais avoir une bourse pour engager quelqu'un pour qu'il vienne m'entendre la dire, cette histoire-là, puis me dire « je pense que tu devrais le dire de même à ce moment-là, puis regarder le public à ce moment précis en le pointant du doigt. » Ouais, ça aurait l'air vraiment réaliste. Il y a des bourses pour comme plein d'étapes, excepté l'étape où c'est maintenir un show pendant des années. Ça, on est plus, mettons, au Québec, on finance beaucoup le départ. histoire d'être certain de saturer le marché. Mais ça fait en sorte qu'on est un peu des employés de l'État. Parce qu'au Québec, on a choisi que la culture, c'est quelque chose qu'on devait soutenir financièrement parce qu'on veut qu'il y ait de la culture. On veut qu'on génère ces œuvres-là qui sont des œuvres identitaires, qui nous rassemblent, qui nous représentent et qui font de nous qui on est. Les Québécois changeraient rapidement si à la télé, ils passaient juste des shows américains. Tout d'un coup, on serait de plus en plus américains. Quoique, on devient des employés de l'État, mais un peu comme hybride. Mais pas un hybride nice. Mettons, hybride nice, ça serait être médecin ou est-ce que t'es comme employé de l'État, mais travailleur autonome, fait que t'as toutes les déductions que tu veux, mais t'as quand même un salaire garanti. Non, nous, on est comme l'hybride pas nice. C'est-à-dire que on est employé de l'État, sauf qu'au moment où l'État va nous payer, t'arrives dans son bureau, là, ton employeur, tu dis « Bon, ben, ta semaine est finie, c'est le temps de te donner ta paye, tiens, voilà ton 752$, pat, sauf que lance les dés. » Comment ça, lance les dés? « Ah, ben, t'as une chance sur 4 de l'avoir, ton chèque. » Tu fais « Quoi? » Ouais, c'est un peu ça le jeu. C'était ça la statistique, je pense, c'était en 2023 ou 2022, là, que c'était 25% des demandes de bourse qui avaient été répondues positivement. Ça veut dire qu'il y a 75% d'artistes qui ont demandé de l'argent puis qui ne l'ont pas eu pour faire leurs œuvres. Ça veut-tu dire qu'il y a 75% d'artistes qui ont dû retourner manger de l'herbe, travailler dans un restaurant? C'est souvent ça le gag, là. Ah, t'es comédien? Nice, dans quel resto tu travailles? T'sais? Parce que, au lieu de laisser l'État financer la culture, finalement, on laisse les individus porter ça eux-mêmes en se finançant eux-mêmes puis en restant disponible pour le marché, mais qu'il y ait de quoi à y donner. Mais c'est vraiment la dynamique de... Il y a une espèce de loterie qui vient avec ça. Et je vous dis, loterie, tu te dis, bon, ben Patrick, quand tu te déposes pour une demande de bourse, j'imagine qu'avec l'expérience, tu deviens de mieux en mieux, ton produit est de plus en plus solide, fait qu'ils doivent te le donner de plus en plus. Ça dépend beaucoup des circonstances. Est-ce que vous êtes 400 à avoir déposé sur la même enveloppe cette année? Est-ce que ton voisin de gauche avait le projet de sa vie et qu'il vient de tout torcher puis ramasser tous les enveloppes possibles? Ça se peut. Alors, tu te retrouves à être un peu dans une espèce de dynamique de compétition avec les autres artistes. Tu sais, nous, exemple, en Gaspésie, on a... Il y a une enveloppe qui s'appelle le partenariat territorial, où est-ce qu'il y a un gros montant qui est offert pour toute la Gaspésie, et puis tout le monde dépose des projets. Fait qu'on se retrouve à être peut-être, ben, je sais pas moi, 100 artistes à déposer. Et au final, il va y en avoir, mettons, 17 ou 15 qui vont avoir des réponses positives là-dessus. Et toi, ben, t'en fais jamais partie, évidemment. Et t'as déposé un projet ben, qui était... tu sais, moi, exemple, ça m'est déjà arrivé de déposer la petite grève là, pour essayer d'être finalement payé pour ce que je fais. Et là, tu vois d'autres projets qui ont été payés pour ça et c'est dur de pas te comparer. Parce que dans le fond, t'as été comparé. On a évalué que ton projet était moins pertinent que le sien. Alors, ça crée une espèce de compétitivité entre les artistes qui est vraiment pas belle puis pas saine. Et c'est dur de s'enlever ça de la tête. Quand tu reçois une réponse négative, ça peut te jeter à terre pour des semaines. Moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, ben, je m'ai dit plus jamais. Et ça y est, plus jamais. Plus jamais jusqu'à la prochaine fois. Mais plus jamais je vais demander de l'argent qui est offert pour me payer pour le travail que je suis en train de faire. Non, je vais accepter de ne pas le prendre maintenant parce que je suis plus prêt à risquer le temps que ça me demande puis l'énergie que ça me demande de demander. Parce qu'avouez que c'est quand même un modèle d'affaires particulièrement risqué que de dire « j'investis pour des chances de succès de 25%. » Si tu as passé 40 heures à faire ta demande de bourse et que tu as une chance sur 4 de l'avoir, j'espère t'en demander un gros montant parce que sinon, ben, ça veut dire qu'il faut que tu refasses 3 autres demandes encore et puis ça vient d'augmenter ton coût et tu ne peux jamais te faire payer pour des demandes que tu n'as pas reçues. Et moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir une bourse justement pour la petite grève. Il y avait un programme qui s'appelait « Prestations publiques dans des lieux atypiques ». Et je me dis, ça y est, c'est moi, ça me pointe du doigt, un lieu atypique, c'est moi, je me suis créé une scène de compte, c'est une prestation publique, en ouais par là, réponds au formulaire, et finalement, je l'ai. Et ça me payait, en fait, pour que mon projet balance finalement, et ça m'avait donné, c'était 15 000 $ que ça m'avait donné, en plus de mes revenus de l'été, de mes revenus de billetterie. Fait que finalement, cet été-là, ça a été vraiment un bon été. En fait, ça a été un été où j'ai été payé à ma juste valeur parce que tout d'un coup, l'État reconnaît que, ah ben oui, tout le temps invisible, le temps fantôme que tu mets en amont de ton spectacle, ça a vraiment une valeur. Toute la mise en place, le réseautage que tu fais, la publicité que tu payes, bon, la recherche pour des histoires, ça vaut de quoi? En fait, ça valait 15 000 $ et je l'ai eu. Sauf que ça laisse une trace pour moi après Et c'est probablement une très mauvaise manière de voir ça, mais tout d'un coup, ben, ça me fait réaliser que ben, moi, comme un cave, ça fait 10 ans que je ne demande pas mon 15 000. Ça fait 10 ans que je fournis gratuitement, que je suis bénévole pour l'État. Que toute ma préparation, finalement, de mon spectacle, je la fais bénévole. Il y a juste les moments où je suis sur scène, que j'ai vraiment, que j'arrive à couvrir un cachet professionnel, que j'arrive à me payer pour ce que ça vaut. Mais c'est ça, ma réalité. Tu sais, mon 18 000 que je vous ai dit pour mon spectacle d'été, ben c'est exactement ça. C'est ce que ça vaudrait de faire 52 spectacles, finalement. Mais pas de créer un marché de compte dans un territoire où il n'y en avait pas. Ça, l'État québécois a envie de financer quelqu'un pour qu'il crée ce marché-là. Mais je le fais pour gratis depuis 12 ans, en fait 11 ans, parce qu'une fois, ils ont payé pour. T'sais. Et en fait, le financement public, ça crée une espèce de marché où est-ce que le client, ce n'est pas le spectateur ou la spectatrice, non, c'est le bailleur de fonds. Assez rapidement, bon, si je suis un compteur et que je vois qu'il y a des fonds pour, je ne sais pas moi, de créer des comptes qui vont parler, tiens, de la réconciliation, eh bien, ça vient d'orienter la création de mon œuvre et je ne vais pas la faire pour répondre aux attentes d'un public, mais répondre aux attentes du gouvernement qui voulait une manifestation artistique qui traite d'un propos qui est important, qu'on amène, qu'on mette sur la table de différentes manières. T'sais. Mais ça crée des œuvres qui peuvent être décalées par rapport au public. À l'inverse, moi, mon spectacle, l'été, eh bien, le client, c'est le spectateur. Et veux pas, plus j'atteins ma cible, eh bien, mieux je vais vivre de mon spectacle. Mais ça fait de moi quelqu'un qui crée du contenu qui est très populiste. C'est très pop. Il y a beaucoup d'humour. On est quand même assez proche du stand-up comique dans la formule de cette affaire-là parce que j'ai besoin qu'il y ait du monde à mon show. Et ça en fait quelque chose qui n'est peut-être pas de la haute voltige. Ça va faire en sorte que je ne serai clairement pas le prochain Ionesco. T'sais. Mais Ionesco, il serait probablement mort la gueule ouverte s'il y avait à vivre de sa billetterie. Je ne sais pas. Je parle vraiment à travers mon chapeau. Je sais pas. Il vivait-tu de billetterie? Je sais pas s'ils vivaient d'une billetterie, ou s'ils étaient genre commandités par le roi. Mais en tout cas, c'est un des désavantages des œuvres qui run à la billetterie, c'est qu'on nivelle peut-être par le bas. Au lieu de présenter des œuvres qui amènent le public à explorer autre chose, à essayer quelque chose qui est loin de leur zone de confort, non, moi j'essaie de taper dans le mille parce que j'ai envie que le monde vienne se rasseoir puis qu'il me redonne le 10$, t'sais, parce que je veux partir l'hiver prochain pour aller chercher d'autres histoires. Et que ça ne me tente pas de faire une demande de sub de 60 heures pour partir en voyage. Alors, c'est un petit aperçu de ce que ça peut faire d'être dans un milieu où est-ce qu'il y a du financement public. Si tu décides de ne pas jouer ce game-là, de jouer plus safe en tant qu'entrepreneur puis de dire « OK, non, je vais aller sur des certitudes, quitte à faire plus de contrats dans des écoles pour financer mon spectacle estival, tu sais, ce qui revient à faire du bénévolat pour travailler finalement », eh bien, c'est plus garanti, sauf que tout d'un coup, tu es quand même en compétition avec des projets qui, eux, ont eu le financement public, qui, eux, ont les moyens de faire des shows qui sont déficitaires. Tu sais, moi, je présente mon spectacle l'été et il y a toute une programmation autour de moi qui a bénéficié du financement public et avec lequel je suis en compétition. Et c'est comme si le marché était corrompu. Il a été contaminé par du financement public. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est un peu comme s'il fallait que tout le monde soit contaminé par le financement public et non pas juste certaines personnes. Alors, ça crée plein d'émotions quand même assez négatives, je vous dirais, toute cette réalité-là. Et d'un autre côté, tu as l'impression d'avoir gagné à la loterie la fois où on te donne ton salaire. Et c'est une émotion très positive, ça, de tout d'un coup être reconnu à ta juste valeur cette fois-là. Malgré ça, j'avais déjà un background entrepreneurial. Moi, avant de me mettre à être compteur, j'avais une petite entreprise à Québec depuis quelques années. Alors, j'avais toujours eu cette fibre-là. Et pour moi, il y a une grande créativité qui est possible là-dedans. T'es pas juste là à gérer des chiffres, mais t'es là aussi à essayer de trouver des idées pour solutionner certaines problématiques. Et ça demande vraiment une grande créativité, je pense, d'être entrepreneur, entrepreneuse. Et c'est un mode de vie en soi et je ne l'échangerais pas pour grand-chose, en fait. Moi, de mon côté, dans le milieu du conte au Québec, je suis vraiment privilégié de pouvoir vivre d'un spectacle que je produis l'été. C'est une gig de luxe. Je pense qu'il ferait saliver plusieurs artistes de pouvoir aller faire un spectacle 4 soirs semaine à 5 minutes de bicyclette chez vous, que tu n'as pas à être sur la route à dire bye à ta famille, que tu n'as pas, qu'il n'y a pas toute cette dynamique-là et que tu as un public qui est présent. Tu n'es pas en train de jouer devant une salle où il n'y a pas personne parce que le diffuseur n'a pas fait le bon travail. Alors, je me sens vraiment, vraiment, vraiment privilégié. Je sais que je l'ai mérité, ça, je l'ai travaillé, mais il y a toujours un bout qui ne t'appartient pas et puis tu lances ta ligne à l'eau et que je suis content qu'il y a eu quelque chose au bout de ma ligne ici pour moi, pour me permettre de vivre de ce métier-là, de cette manière-là. Alors, c'était ce que j'avais à dire sur l'entrepreneuriat artistique. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève, le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault, à la co-animation Marianne Boudreau, au montage Thomas Wadam-Gagnon et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève ainsi que la MRC Avignon et Boralex.